Renault.
L'autre jour, un chef d'atelier Renault me demande « Monsieur José, vous pourriez nous aider à recruter pour le service après-vente » Et le voilà qui me parle de ses métiers de plus en plus technologiques, avec des formations régulières, bref, le gars passionné. Moi je dis, il ferait mieux de parler à ma place.
Les ateliers Renault Car Service recrutent des mécaniciens, électromécaniciens et carrossiers, débutants ou confirmés. Postulez sur recrutement-réseau.renault.fr. Renault Car Service, numéro 1 du SAV 2024. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Source l'Automobile Magazine 2023.
Vous écoutez
RMC. RMC, mobilisation générale.
Plus fort ensemble.
Et on est plus fort ensemble, comme tous les jours, RMC Mobilisation Générale jusqu'à 16h pour vous donner toutes les infos sur l'évolution de cette épidémie, surtout, comme chaque jour, pour vous donner la parole, répondre à toutes vos interrogations. Vous nous appelez au 3216, vous réagissez sur Direct Studio. Avec moi, Antoine Arlot et Nicolas Poincaré, journaliste RMC. Bonjour messieurs, salut Antoine, Rémi. Salut Nicolas.
Bonjour Rémi.
Et avec eux, nous suivrons en direct l'actualité sur cette épidémie. Dans une demi-heure, nous parlerons de ces commerces qui tentent de rouvrir leurs portes différemment, qui tentent de s'adapter à la situation. Alors que nous entrons aujourd'hui dans la quatrième semaine du confinement, des enseignes comme la Fnac, Darty, Boulanger se mettent au drive, tout comme McDo, KFC ou encore Pizza Hut. Ce sont quelques exemples. Il y a également le caviste Nicolas qui rouvre ses magasins dans des conditions drastiques de sécurité. Mais bon, voilà, les magasins vont rouvrir. Ont déjà rouvert d'ailleurs, je crois, un certain nombre d'entre eux depuis lundi. Alors, est-ce trop tôt? Vous travaillez ou vous allez reprendre le travail? Comment vous le vivez? Vous êtes soulagé, content? Vous êtes inquiet? Les trois à la fois. Appelez-nous au 3216. À partir de 15h, le docteur Christian Requia répondra à toutes vos questions pratiques, celles du quotidien sur l'épidémie. Là aussi, vous nous appelez au 3216. Et puis vers 15h40, ça va faire plaisir à notre producteur de cette émission, Pierre Amiche, qui adore les animaux. Nous parlerons, oui, des parcs zoologiques. Il y en a quand même 350 en France. Ils sont fermés au public, sans rentrée financière, donc certains souffrent et doivent continuer à s'occuper des animaux, à les nourrir, à soigner. Le président de l'Association française des parcs zoologiques et directeur du zoo de Beauval sera avec nous. Mais d'abord, comme tous les jours, hommage, j'allais dire, bah oui, pourquoi pas, hommage à ceux qui se montrent solidaires dans cette crise, à ceux qui ont décidé d'aider les autres. Cette France, celle de tous ceux qui se mobilisent, donc, bonjour Julien Pivetta.
Bonjour, bonjour à tous.
Bienvenue sur RMC, Julien. Je me permets de te tutoyer. Julien, tu as alors j'ai en tête 21 ou 22 ans ?
20.
20 ans, encore plus jeune que ça. 20 ans, Julien. Tu es étudiant à Fontainebleau et avec l'un de tes camarades, Anthony Landais, tu viens de lancer la plateforme Bleau à la maison, Fontainebleau, Bleau à la maison. L'idée, c'est de mettre en relation les habitants avec leur commerce de proximité. Explique-nous, Julien.
Exact. Alors bonjour à tous, Bleu à la maison. Donc c'est une plateforme qu'on a montée avec mon ami Anthony Landais. L'idée c'est de proposer une commande en ligne donc auprès de nos commerçants à Fontainebleau. Tout le monde peut commander via la plateforme, décider soit de retirer donc sa commande en boutique via du click and collect pour réduire notamment le temps passé en magasin, soit de se faire livrer. Alors qu'on est tous Fontainebleau pour son château et sa forêt qui sont magnifiques. Mais ce qui fait aussi le cœur de notre ville et ce qui nous tient à cœur, c'est évidemment nos commerces et nos commerces indépendants. Et on nous a dit, on a constaté que rien de tel n'avait été mis en place par la mairie ou dans la ville pour les commerces indépendants. Et donc ça moquait énormément. Donc on souhaite être là pour eux. On souhaite agir.
Julien, excuse-moi, Julien, je t'interromps, mais quand on a 20 ans, comment vient l'idée? Tiens, je vais aider mes commerces de proximité. Comment t'es venue cette idée? Bah, moi, à 20 ans, c'était pas ma préoccupation première. Hein.
On a reçu beaucoup de messages de personnes qui étaient en difficulté, de personnes qui pouvaient pas sortir de chez elles, et ça nous tenait à cœur vraiment, voilà, de recréer du lien entre ces commerces qui perdent beaucoup de chiffre d'affaires, qui perdent leurs clients habituels, et ces personnes qui sont en difficulté. Donc aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est les livrer, et ça nous tient à cœur.
Tu fais partie déjà de la vie associative de la ville, j'imagine?
Alors oui, on est tous les deux engagés avec Anthony Landais depuis longtemps pour la ville.
D'accord. Alors premièrement, les commerces de proximité, j'imagine que tu as eu l'occasion de les rencontrer, en tout cas d'être en confinement oblige, d'être en contact avec ces commerçants. Quand tu leur as proposé l'idée, lorsque tu leur as présenté l'idée, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Quel a été leur retour?
Bah, c'est allé beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement que ce à quoi on s'attendait. Ils étaient Ils étaient contents de se voir proposer un projet pareil. Voilà, c'est une initiative qui est 100% bénévole. Nous, pour être totalement transparent, on prélève quelques euros simplement pour les frais de fonctionnement, que ce soit les serveurs, la plateforme, etc. Mmh. Mais on essaie de vraiment leur apporter que du plus. Et donc, ils étaient contents et ravis qu'on vienne les aider bénévolement.
Parce que tu le disais tout à l'heure, Julien, les commerces de proximité, nos commerces de proximité, bon, c'est le boulanger, c'est le buraliste, le bar, le restaurant du coin. On le sait, évidemment, ils souffrent particulièrement de la crise actuelle. Moi, j'avais un chiffre qui m'a marqué. J'aime bien le chocolat, mais c'est pas pour ça. Et je me souviens de ce chiffre sur les chocolatiers qui ont le droit d'ouvrir, qui ont le droit de rester ouvert. Ils font actuellement, en moyenne, 20% de leur chiffre d'affaires habituel. C'est-à-dire que c'est terrible. Et donc, j'imagine que tu as eu des témoignages de commerçants de proximité qui t'ont dit être particulièrement inquiets de leur situation.
C'est exactement ça. Et c'est ces chiffres-là. On nous dit aussi une perte de 60%, une perte de 70%, 80% de leur chiffre d'affaires. Et ça tombe bien que vous parliez des chocolats, parce qu'on a des chocolatiers qui nous ont rejoints sur la plateforme et dès ce matin, on a ouvert la plateforme hier soir et dès ce matin, on livrait des chocolats.
Et plus Pâques approche, en plus, c'est la deuxième plus forte période de vente pour eux. Donc
c'est un vrai
moment
de l'année avec Noël.
Il y a une véritable... C'est salvateur, voilà, ce genre d'initiative, parce que si ça peut permettre à certains commerçants de s'en sortir un petit peu, alors ça suffira pas, évidemment, mais s'il y a des initiatives comme ça qui se mettent en place différentes, c'est important. Merci, en tout cas, Julien Pivetta, d'avoir été avec nous. Tu l'as lancé hier soir, vous l'avez lancé hier soir, cette plateforme.
Voilà, alors c'est sorti hier soir, blowalamaison.fr. Donc chacun peut y accéder sur téléphone, sur ordinateur et j'en profite aussi pour remercier tous les bénévoles qui nous ont rejoints parce que voilà, c'est la preuve que la solidarité elle est importante chez nous et que ça nous tient tous à cœur.
Blow à la maison, BLEAU, la fin de Fontainebleau, hein, blowalamaison.fr. Merci beaucoup Julien Pivetta d'avoir été avec nous sur RMC. Guillaume nous rejoint au 32-16. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Bienvenue sur RMC, tu nous appelles depuis le Lot-et-Garonne, c'est ça ?
C'est ça, exactement.
Sainte-Marthe.
Sainte-Marthe, ouais, c'est du côté de Marmande, entre Bordeaux et Agen.
Très bien, on se situe déjà là. Guillaume, on a un étudiant là, des étudiants qui se mobilisent pour les commerces de proximité. Et comme quoi, cette solidarité, elle va dans tous les sens, parce que toi, tu as décidé d'aider les étudiants, c'est ça ?
C'est ça,
exactement. Explique-nous.
En fait, je suis à l'origine avec un groupe d'amis. D'un groupe Facebook qui a pour but de mettre en relation des étudiants et des futurs étudiants parce qu'on s'est rendu compte qu'avec le confinement, il y avait plus de portes ouvertes, il y avait plus de forums pour les lycéens par exemple et donc ce groupe a pour but justement de permettre à ces lycéens et donc futurs étudiants d'avoir plus d'informations sur leur avenir et de l'aborder plus sereinement.
On parle de l'orientation là, clairement, hein, c'est Parcoursup, c'est l'orientation.
Ouais. Parce ça s'appelle comment ce groupe ?
C'est Entraide-Orientation Post-Bac.
Orientation.
C'est ça, hein ?
Orientation post-bac.
C'est marrant que tu nous présentes cette initiative parce que tu sais Antoine, on en avait discuté la semaine dernière lorsque le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer a présenté les décisions quant à la modalité de passage du bac cette année. Ça sort du contrôle continu. Il a parlé du brevet, il a parlé des BTS, CAP, BEP et on s'était posé la question effectivement pour ceux qui vont passer le rattrapage. On a dit que ça serait juillet, mais effectivement n'a pas été évoqué, en tout cas sauf erreur de ma part, l'orientation et ce fameux Parcoursup, parce qu'il y a l'inquiétude, on le sait déjà, alors hors Covid-19, il y avait déjà beaucoup d'inquiétudes des futurs bacheliers sur leur inscription dans leurs futures universités ou écoles, et là on imagine que c'est panique à bord pour certains.
Ouais, c'est un peu ça en fait. Ce groupe-là, il est né en fait d'un constat, c'est que j'ai remarqué sur les réseaux sociaux que un certain nombre de personnes se posaient des questions par rapport à l'orientation. Et j'étais encore en contact avec une de mes anciennes CPE et on en a discuté un petit peu et elle m'a dit que oui, effectivement, ce serait une bonne idée parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui se posent beaucoup de questions.
Bah oui. Et de parents, j'imagine aussi. J'imagine que les parents derrière se posent beaucoup de questions. Merci beaucoup.
Le groupe est aussi ouvert aux parents.
Ouais, j'imagine bien. Et heureusement, en tant que parent d'élève, je te remercie de penser à nous aussi, Guillaume. Merci de. Tu as quel âge, toi, Guillaume?
Moi, j'ai 20 ans.
Ouais, pareil. Voilà, deux jeunes de 20 ans qui se mobilisent et dans des directions très différentes. Ça parle beaucoup, ça. Enfin, en tout cas, moi, ça me parle beaucoup. Et vous les voyez pas parce que c'est de la radio, mais il y a Antoine et Nicolas Poincaré qui me regardent et effectivement, ça les.
Non, mais c'est vrai qu'on en a c'est souvent. On a souvent des jeunes qui nous appellent pour ce genre d'initiative.
Ça fait du bien.
C'est vrai, ça arrive très souvent.
Ouais. Ouais, d'accord.
Maintenant, c'est ce qu'on a souligné à plusieurs reprises déjà à ce micro, c'est cette envie d'agir, cette envie de ne pas être inutile. Et je crois que pour le moral, il n'y a rien de mieux en ce moment que d'arriver à donner un coup de main à quelqu'un.
Merci en tout cas, Guillaume. Est-ce que tu es toujours là, Guillaume? Guillaume, tu es toujours là? Redonne une dernière fois l'adresse de la page Facebook.
Sur Facebook, c'est entraide-orientation-post-bac.
Entraide-orientation-post-bac. Merci beaucoup, Guillaume. On se retrouve dans un instant. Vous continuez à nous appeler au 3216. Vous avez mis en place des choses. Vous avez bénéficié d'entraide, de l'aide de quelqu'un. Appelez-nous au 3216. Dans un instant, nous serons avec David Rouxel. Il a créé la plateforme Smile. Ça parle, Smile, le sourire, et on va comprendre pourquoi.
RMC,
mobilisation générale.
Plus fort ensemble.
RMC, mobilisation générale.
Plus fort ensemble.
On est ensemble jusqu'à 16h pour vous donner toutes les infos sur l'évolution de l'épidémie, surtout pour vous donner la parole, recueillir vos témoignages, répondre à toutes vos questions. Ça, c'est sur le 3216, vous nous appelez au 3216 et puis vous pouvez également déposer vos questions ou vos témoignages sur Direct Studio. Antoine, comme tous les jours, a les yeux rivés sur son ordinateur.
Je ne quitte pas.
Tu es en direct sur Direct Studio et tout de suite, on continue de parler du besoin d'entraide dans ce contexte si particulier. Et David Rouxel nous rejoint. Bonjour David.
Bonjour à tous.
Bonjour David. Est-ce que je peux me permettre de tutoyer?
Eh bien, tu peux.
Je le fais alors. Tu es le fondateur et président de Smile. Smile avec deux I. S-M-I-I-L-E, c'est ça?
Oui, c'est ça. C'est une start-up qu'on a créée il y a un peu plus de 4 ans.
Voilà, créée à Saint-Malo.
Et ouais, basé à Saint-Malo.
J'ai vu ça ce matin, une start-up malouine. Et c'est un réseau social d'entraide, de partage entre voisins, tu l'as dit, qui a été créé en 2014. Et forcément, face à la crise du Covid-19, tu as décidé de mobiliser la plateforme pour l'entraide. Explique-nous ce que tu fais exactement.
Alors effectivement, depuis la crise à laquelle on fait face, on a mobilisé l'équipe, la plateforme et la communauté. Aujourd'hui, on fait face à plus de 1000% des échanges sur la plateforme. Et l'idée de Smile, elle est assez simple, depuis 5 ans, c'est de promouvoir l'entraide entre voisins sous toutes ses formes. Donc on va partager des compétences, du savoir-faire, du matériel lorsqu'on peut, et des coups de main. Et en ce moment, c'est effectivement du coup de main très pratique qui se déploie vraiment et qui se développe beaucoup sur la plateforme.
Il y a combien de participants à la plateforme, d'adhérents?
Alors, aujourd'hui, on va dépasser le 2 millions de foyers inscrits. Et
2 millions
à demi-million, pardon.
Ah, pardon, non, 500 000. 500, c'est ça, 500 un demi-million. Un demi-million.
Ouais, c'est ça.
500 000
foyers français.
Ouais, mais c'est énorme, c'est déjà énorme, 500 000 personnes.
Alors, c'est très loin des grands réseaux sociaux américains.
Oui, non, d'accord.
C'est de voir comment s'empare la plateforme et les services par la communauté, comment ils sont utilisés aujourd'hui au quotidien. Et franchement, ça fait plaisir de voir qu'il y a une vraie communauté qui est créée, une vraie entraide. Les gens partagent, les gens se donnent des conseils et ça fait du bien aujourd'hui.
Et très, très concrètement, partage, se donne des conseils. Tu parlais aussi de matériel, par exemple. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de partage entre voisins qui te viennent à l'esprit?
Alors oui, je vais vous donner des exemples assez atypiques parce que c'est vrai qu'avec la distanciation sociale qu'on doit maintenir aujourd'hui, c'est plus compliqué.
Il a fallu s'adapter.
Il a fallu adapter le numérique pour continuer à développer cette entraide. Alors juste pour l'anecdote, on a lancé il y a quelques jours la vidéoconférence entre voisins. Alors c'est tout bête, la vidéoconférence existe, mais entre voisins réels, ça c'est atypique. Et lorsqu'on est par exemple en panne pour son télétravail parce que sa connexion marche mal, ou lorsqu'on ne sait pas imprimer les attestations de sortie, là on peut être dépanné à distance entre voisins.
Sur les attestations, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens, petite parenthèse, qui, par exemple, on est au travail, on a une imprimante, et parce qu'il y a des gens qui continuent à aller au travail. Ils en impriment 50 et puis le mettre dans le hall de l'immeuble. Ça aussi, c'est une entraide.
C'est de l'abus bien social.
Pardon. Non, mais voilà, ça permet aux gens qui ne peuvent pas de pas tout écrire.
Non, mais tu as raison, c'est un vrai sujet. Et... parce que bon, maintenant, il y a la, mais on parle par exemple des personnes âgées ou autres qui n'ont pas de smartphone. Ouais, c'est bien hein, l'attestation numérique, mais c'est vrai que un certain nombre de personnes n'ont pas les moyens, tout simplement, d'avoir une imprimante, un ordinateur à la maison. Et ça a été un vrai besoin, effectivement, qui a vu le jour lorsque cette attestation a vu le jour. Et j'imagine donc, moi, j'ai pas d'imprimante, ou alors mon imprimante, évidemment, elle tombe en rade en ce moment, voilà, comme de bien entendu.
Un voisin,
voilà. Je peux trouver un voisin, ouais, qui m'en imprime, allez, 10, sympathiquement, et qui me les glisse sous la porte, voilà.
Tout à fait. Alors, on a l'impression des attestations, même si maintenant elle est disponible sur smartphone, ça serait, ouais, une super nouvelle de la part du gouvernement, mais on a des petits mots entre voisins, de type recettes, parce qu'on est tous à la maison depuis 3 semaines, bah, on n'a plus quoi à cuisiner, et bien on a des recettes. Et on a aussi des cours de sport entre voisins à distance qui se font sur Smile, on a vu ça. Certains qui font des moments de yoga ou de stretching sur les balcons ou à distance, parce qu'il faut garder cette distanciation sociale. Mais et oui, ça, c'est sûr, atypique, c'est des choses qu'on ne voyait pas avant, c'est sûr.
Qu'est-ce qui marchait le mieux avant le confinement ?
Alors, ce qui marche le mieux... ce qui marchait le mieux avant, c'était quand même le prêt matériel. Nous, on milite chez Smile pour développer l'entraide entre voisins, l'entraide de proximité, mais aussi à la mutualisation des ressources. Aujourd'hui, on accumule les ressources, on accumule le matériel qui prend la poussière dans le garage, on l'utilise 3 fois dans l'année. Nous, on milite à ça, et c'est ce qui marchait beaucoup avant, c'est le prêt de matériel, la location de matériel, lorsqu'on veut amortir un achat, ça se fait beaucoup.
Et ça, c'est complètement fini, parce qu'il faudrait se rencontrer, il faudrait sortir, donc ça marche plus du tout en ce moment.
Alors, ça marche moins, mais on a la distanciation sociale qui est appliquée. Par exemple, je peux laisser mon matériel en bas de l'immeuble, je le nettoie quand je le prends, je le nettoie quand je le rends. Ouais. Le matériel continue quand même à être échangé sur Smile, et heureusement, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être des articles de sport, ça peut être des jeux de société. Moi, j'ai 2 enfants, je fais au moins un nouveau jeu de société tous les 3 jours, sinon il s'ennuie. Bah voilà, on partage les jeux de société, on les nettoie bien quand on les reçoit, on les nettoie bien quand on les rend, et il n'y a pas de risque à ce moment-là.
Et on est bien d'accord, David, ça marche partout en France, hein, Smile.
Alors, on est présent dans toutes les villes. Là, je vois, par exemple, sur la plateforme Jean-Louis dans Haute-Garonne, je peux téléphoner à des personnes isolées pour rompre l'isolement si vous n'avez pas le temps de le faire. Donc ça, c'est sympa. Oui. J'ai quoi, là ? J'ai Eric dans le Maine-et-Loire. Il va justement déposer dans la cage d'escalier plein de livres et plein de jeux de société pour pouvoir échanger avec ses voisins. Il faut bien les nettoyer en les prenant et en les rendant, bien sûr.
C'est beau de voir l'entrain, la joie de vivre de David. Je sais pas si tu te souviens, on avait eu Athanas Périfort, le créateur de la, oui, Fête des Voisins, à notre première émission.
Oui, c'est très complémentaire.
Et voilà, et c'était pareil. Il proposait un petit peu les mêmes choses, même si, voilà, lui, c'est aussi sur les réseaux sociaux. Et à chaque fois, voilà, il y a cet entrain et cette joie d'aider les autres. C'est quelque chose qu'on entend souvent.
Apporter de la joie, du positif. C'est aussi pour ça qu'on s'appelait Smile, d'ailleurs. Le smile, le sourire. On a aujourd'hui les problèmes sanitaires en ce moment. On a aussi la crise environnementale. C'est pour ça aussi qu'on a créé Smile. Mais il faut garder le positif, il faut garder le sourire. Là, je vois Christian dans le Haut-Rhin 68. Je vous propose, ce soir à 19h, à la tombée de la nuit, de diffuser 15 minutes de musique pour égayer votre journée. Et la playlist va être créée sur Smile entre voisins. Ça, c'est sympa. C'est quelque chose qu'on avait jamais vu.
Non, mais il y a du lien. Il y a des choses très concrètes, très pratiques. Voilà, le prêt d'objets, par exemple. Et il y a ce lien social qui est super important. Ne serait-ce que ce coup de fil. Celui qui se proposait, tu vois, de passer des coups de fil si vous n'avez pas le temps à des personnes isolées. Ça paraît tellement anecdotique dans le quotidien. Or, période extraordinaire dans laquelle nous sommes plongés, mais là, ça prend une toute autre dimension.
Ouais. Allez, je me permets une petite anecdote bretonne.
Une dernière.
Anecdote
bretonne, attention. Anecdote malouine même.
Je confectionne avec amour des galettes, des crêpes sur mon bilig. Je prends toutes les mesures d'hygiène, je les emballe dans un film alimentaire, je vous les dépose devant votre maison si vous n'avez pas le temps de faire les courses. Génial.
Bah ça, c'est la Bretagne, hein. Ça aurait pu être une annonce parue dans le Nord chez moi, quasiment. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous, David Rouxel. Je rappelle le réseau, la plateforme, c'est Smile, SMILE. Merci beaucoup, David. Belle journée. Dominique nous rejoint au 32-16. Bonjour, Dominique.
Bonjour à tous.
On passe de la Bretagne à Nice, c'est ça, Dominique ?
Oui.
Toi, tu es chef d'entreprise.
Oui, oui.
Et tu veux parler de l'un de tes amis qui a une imprimante 3D, et on en parlait tout à l'heure avec Nicolas Poincaré. Au lieu de regarder avec ses yeux ronds son imprimante 3D, il s'est dit, faut que j'agisse, faut que je fasse quelque chose.
Voilà, exactement. Bah, c'est un ami qui, dont son épouse travaille dans un EHPAD sur le 06. Et avec le manque flagrant d'équipements de protection, il a eu l'idée, comme il a une imprimante 3D, de fabriquer des supports de visière, enfin de fabriquer des masques de protection. Donc il a fabriqué en 3D avec son imprimante le support pour la visière, et après avec des feuilles plastiques transparentes, ben ça fait le masque. Donc du coup il nous a expliqué qu'il avait fait ça. Que les personnes où travaille sa femme étaient vraiment très contentes, et les gens qui travaillaient, et donc il a eu l'idée d'en faire d'autres et de proposer gratuitement, bien sûr.
C'est ce que j'ai tout demandé.
La fabrication, et aussi de récolter les matières premières.
Oui, parce que
il faut les matières plastiques.
Voilà.
Également d'inciter d'autres personnes qui ont des imprimantes 3D à faire la même chose et à le distribuer sur le 06 pour notre part. Et puis après, voilà, ça peut inciter d'autres personnes sur tout le pays. Ce serait génial.
Mais ça serait même indispensable, parce qu'on en est là aujourd'hui, hein, on l'a vu. Tu sais que l'idée qui court en ce moment, et ça devrait arriver, c'est déjà le cas à Nice, si je ne me trompe pas, à Sceaux aussi. Maintenant, pour sortir, il faudra obligatoirement porter un masque. Qu'est-ce qu'on nous dit? Vous portez ce qu'on appelle, alors il sera un nouveau mot, un masque alternatif. Clairement, c'est un masque qu'on se procure, qu'on se fabrique soi-même, c'est un masque artisanal. Et là, typiquement, on en est là. C'est-à-dire que les personnels des EHPAD, on le sait, vont être obligés, sont obligés, quand ils le peuvent, de se fournir auprès de qui veut bien le faire pour eux. Et là, l'exemple de Tocopa, c'est exactement ça.
Nous, on a des demandes. On a fait une page Facebook qui s'appelle Street Maker 06 versus Covid-19. Donc Street, parce qu'on a une équipe de sport ensemble avec plusieurs amis.
Okay.
Donc on a gardé ce nom. Donc Street Team 06 versus Covid-19 versus VS contre Covid-19, pardon, pas en versus, pardon.
Street Team 06.
Et donc on a des demandes par le site. J'ai des collègues là qui ont fait une livraison ce matin pour un hôpital à Monaco. Il y a des demandes pour des pompiers également sur la page Facebook, hôpitaux, EHPAD. Je pense qu'on va voir aussi après tous les travailleurs, en fait. Ouais. Tous les travailleurs,
tous
les gens qui travaillent avec du public.
Les demandes, Dominique, ne manqueront pas, ça c'est certain, et ça va durer, j'allais dire malheureusement.
Ouais, alors, on est en train tous de devenir des spécialistes du masque. Ouais. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'on nous propose donc effectivement ce masque qu'on se colle contre la figure, et on nous dit de se le coudre soi-même à la maison. Mais on voit de plus en plus de gens qui utilisent un masque, c'est-à-dire quelque chose de
avec
transparent.
Avec une visière,
voilà, qui protège. Hier, j'étais dans une chaîne de magasins de surgelés, et j'ai vu que tous les vendeurs étaient équipés de ça. Alors, on peut se le faire à la maison aussi. J'ai vu un petit tuto sur Internet avec un serre-tête et un intercalaire. Vous piquez l'intercalaire d'un de vos enfants en plastique, vous prenez le serre-tête de votre fille, si vous avez une fille qui porte des serre-têtes, et vous passez le serre-tête à l'intérieur, et ça fait un magnifique masque devant la figure. Et puis alors, il y a une histoire que je trouve extraordinaire, c'est celle du masque Décathlon.
Oui.
Vous avez vu.
Le masque de plongée à l'origine.
Avec un petit peu de bricolage, donc il faut là revenir, comme nous le disait Dominique, avec de la 3D pour bricoler l'entrée de l'air. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, donc ce masque il est complètement étanche, il est parfait pour les chirurgiens et les médecins. Ouais. Mais l'histoire qui est extraordinaire, c'est qu'au départ, c'est pas Decathlon qui l'a fabriqué, ce masque. C'était dans le cadre d'un concours réservé aux clients. C'était un peu démagogique. Decathlon disait à ses clients, envoyez-nous des idées, on verra ce qu'on en fait. Sauf que là, ils ont reçu cette extrêmement bonne idée il y a quelques années. Ils en ont fait un succès commercial mondial dans le monde entier. Le snorkeling a évolué grâce à un client Decathlon qui avait l'idée. Et puis maintenant, il y a cette deuxième aventure. Donc toujours ce même client qui a eu son idée géniale dans son garage, et son masque a une deuxième vie en devenant un très très efficace outil de protection des personnels soignants. C'est quand même extraordinaire.
Et Decathlon a offert les plans pour les fabriquer. Ils ont mis ça en accès gratuit.
D'autant plus que
c'était pas eux.
C'était un de leurs clients.
Mais c'était quand même eux qui les commercialisaient. Donc voilà,
bien sûr,
regardez ça.
Pour la petite histoire, cet inventeur a effectivement une petite partie des droits depuis le début. Et si Decathlon les a cédés, ça veut dire que l'inventeur les a cédés sans doute aussi.
Très bien. Encore un geste, un exemple de solidarité. Voilà, même si certains diront oui, il y a du marketing, de la pub, peu importe. Vu dans les conditions dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, ça sera très bien comme ça. Merci Dominique, en tout cas, de nous avoir appelé au 32-16. Dans un instant, on va se retrouver et on va parler, justement, on parlait de Décathlon, mais on va parler des commerces. Il y en a plein d'autres, hein, Fnac, Boulanger, Darty, McDo, KFC, Pizza Hut et d'autres qui tentent de s'adapter à la situation, c'est-à-dire de rouvrir, alors évidemment pas rouvrir comme avant, mais rouvrir différemment, drive, livraison. Et du coup, on se dit qu'un certain nombre de salariés vont reprendre la route, le chemin du travail. Et dans quel état d'esprit sont-ils? Est-ce qu'ils sont soulagés, contents, inquiets? On en parle, vous nous appelez si vous êtes l'un de ces salariés au 32-16.
RMC, mobilisation générale.
Plus fort ensemble.
RMC, mobilisation générale.
Plus fort ensemble.
RMC, mobilisation générale, comme tous les jours, nous sommes là jusqu'à 16h. Comme je le dis, surtout pour vous donner la parole au 32-16. On veut vous entendre, on veut entendre vos témoignages, vos réactions, et puis répondre, si on le peut, évidemment, à vos questions, le 32-16, mais aussi direct studio. Et tout de suite, on va parler de ces commerces qui tentent de s'adapter à la crise du Covid-19 et au confinement. Antoine Arlot, certaines grandes enseignes test de nouvelles méthodes de vente.
Ouais, le nombre de salariés en chômage partiel augmente, il est aujourd'hui de 5 millions de personnes, mais un certain nombre de commerces qui étaient jusqu'à maintenant fermés ont décidé de réouvrir en s'adaptant bien sûr aux mesures gouvernementales. C'est d'abord le cas dans le domaine de la restauration. Les enseignes, par exemple McDonald's, KFC ou encore Pizza Hut, avaient interrompu leur activité. Eh bien, ces derniers jours, ils proposent à nouveau des services de livraison ou de drive, comme on dit, pour leurs clients. Même constat dans le domaine du bricolage. Certains magasins auraient pu d'ailleurs rester ouverts malgré la mise en place du confinement, mais avait tout de même décidé de fermer. C'est le cas de Leroy Merlin, Castorama ou encore Brico Dépôt. Et si les boutiques sont toujours inaccessibles, eh bien, certaines de ces enseignes ont remis en place leur service de retrait de marchandises ou de livraison à domicile. Enfin, dernier exemple d'un secteur qui redémarre, même si c'est au ralenti bien sûr, les fleuristes, évidemment, ils n'ont pas le droit d'accueillir des clients, mais ils peuvent toujours assurer un service de livraison. 10% des 12 000 fleuristes français ont décidé de poursuivre leur activité et depuis aujourd'hui, Interflora a relancé son service de prise de commande uniquement en Île-de-France. On rappelle que les magasins autorisés à ouvrir sont toujours les pharmacies, les commerces alimentaires, les animaleries, les banques, les bureaux de tabac, garage auto, teinturerie ou encore entreprises agricoles.
Hubert de Malherbe est le président de Malherbe Design et spécialiste du commerce. Bonjour Hubert de Malherbe.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue sur RMC. Alors, pour résumer, pour vous présenter un peu plus, vous êtes designer spécialisé notamment dans la grande distribution, mais dans le commerce. Par exemple, lorsque je rentre, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais je sais que vous avez travaillé avec eux, lorsque je rentre dans un magasin Carrefour, Leclerc, Leader Price par exemple, ou Franprix, le design du magasin, c'est vous. Je ne me trompe pas.
Oui, en tout cas,
vous avez travaillé avec eux.
Oui, on a dessiné beaucoup de magasins et fait évoluer plein de choses. Un magasin, c'est une chose vivante.
Bien sûr.
Vous avez des produits, des allées, des circulations, de la communication, des nouvelles façades, des tenues, des vendeurs. C'est plein de choses.
La circulation dans le magasin, j'imagine aussi.
Oui, bien sûr, la circulation. Et c'est un énorme sujet aujourd'hui.
Voilà.
La circulation, trouver des distances avec les autres personnes, éviter de se croiser, parce que c'est comme ça qu'on peut beaucoup plus facilement être infecté.
Bien sûr.
Donc on essaye par exemple, dans les nouveaux commerces, de forcer des circulations, un petit peu comme chez Ikea, vous voyez. Il y a des sens de circulation.
Ah, oui.
Comme ça, on évite de se croiser, et ça permet de mieux répartir les personnels, les personnes, les visiteurs, les clients, dans les magasins.
En tout cas, vous connaissez bien le sujet, Hubert de Malherbe, on l'a compris. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui, alors qu'on est en plein cœur de la crise sanitaire, est-ce que vous comprenez la volonté des grandes enseignes dont vient de parler Antoine? Là, on a cité par exemple Boulanger, Darty, la Fnac, bon, qui font du drive pour l'instant. Il y en a d'autres, hein, McDo qui va faire de la livraison, KFC, Pizza Hut, peu importe. Mais est-ce que vous comprenez la volonté de ces commerces d'essayer de recommencer, j'allais dire, à fonctionner comme ils le peuvent? Est-ce que, bon, voilà, clairement, la question qu'on peut se poser quand on voit ça, je pense, tiens, au caviste Nicolas, qui a décidé de rouvrir ses boutiques aussi dans conditions de sécurité bien précises, avec notamment, je crois que c'est un client à la fois, etc. Mais ce qui peut venir à l'esprit, Hubert de Malherbe, c'est cette question, est-ce que c'est pas trop tôt? Est-ce qu'il est, en pleine crise sanitaire, indispensable de s'acheter un frigo, de s'acheter une bouteille de vin?
À un moment donné, il va falloir que les choses reprennent. Ça, c'est sûr. Néanmoins, il y a déjà plein de magasins qui sont ouverts, notamment, bien sûr, tous les commerces alimentaires que vous avez cités, et dans lesquels nous et beaucoup d'autres avons mis en place tout un tas de mesures de protection des visiteurs et du personnel, bien sûr, qui y travaille. C'est plein de choses sur l'aménagement des parkings. Dans les hyper, par exemple, on peut fermer une place de parking sur deux. On peut avoir les circuits forcés dont je vous parlais. On peut avoir des caméras thermiques aux entrées des magasins, distribution de masques et de gel, de gants, etc. Et avoir des points de repère, comme ça s'est vu dans le monde entier, des points de repère au sol qui permettent de dire, voilà, vous avez 2, 3 ou 4 mètres de distance que vous devez respecter, comme sur les routes, par exemple. Il y a plein de manières quand même de limiter beaucoup les risques, sachant qu'à un moment donné, cette crise, elle peut faire mourir effectivement beaucoup d'entreprises, comme les commerces, bien sûr.
Et puis il y a des commerces, qui ne paraissaient pas indispensables au début. Tu parlais. Est-ce que c'est vraiment la peine d'acheter un frigo? Ah mais si ton frigo lâche.
Oui, je suis d'accord.
Pendant cette période.
T'as raison. Bien sûr.
Là, t'es un petit peu embêté parce que si tu le commandes sur internet, il va mettre 3 semaines à arriver. Et donc finalement, c'est peut-être plutôt pas mal d'avoir cette possibilité d'aller sur un parking de supermarché ou sur un parking de grande enseigne d'aller chercher.
Alors il y a un pays en Europe qui est le plus avancé en termes de déconfinement, c'est l'Autriche, puisque c'est vraiment le pays qui a donné le premier calendrier officiel. Hier, le très jeune chancelier autrichien qui s'appelle Sébastien Kurz, qui a à peine 33 ans, hier il a donné le programme, et ça commence par la réouverture des petits commerces. C'est la première décision qui est prise, ce sera le 14, c'est-à-dire mardi prochain, les commerces de moins de 400 mètres, quelle que soit leur activité, que ce soit de l'habillement, du luxe, du parfum, enfin bon, si ce sera une question de surface du commerce, si vous faites moins de 400 mètres carrés, eh bien vous pouvez rouvrir en Autriche, à Vienne par exemple, dès mardi prochain. Et en même temps, même si vous êtes, si le commerce fait plus de 400 mètres, mais si ça concerne le domaine du jardinage et du bricolage, eh bien ça pourra rouvrir aussi. Tout ça pour essayer de relancer l'activité économique. Ça viendra bien avant, puisque dans ce calendrier, ce qui vient en dernier, donc en premier les commerces et en dernier la restauration. Ce sera le plus difficile visiblement à ouvrir, puisque les Autrichiens ont dit la restauration ce sera pas avant le 15 mai.
Bah, il y a des soucis aussi de promiscuité et d'hygiène aussi, j'imagine, qui sont drastiques. On en parlait à l'instant, Hubert de Malherbe, de la manière dont vous voyez aujourd'hui comment le commerce peut s'adapter, des sens de circulation, une place de parking sur deux, éventuellement, voilà, pourquoi pas des caméras thermiques à l'entrée pour prendre la température des clients. Ça me fait sourire parce que c'est vrai qu'on a basculé, on sent dans quelque chose qu'on n'aurait pas imaginé il y a un mois. Et Hubert de Malherbe, pour vous, c'est pareil, vous êtes obligé de vous adapter à une situation inédite. Est-ce que vous pensez, Hubert de Malherbe, qu'on est justement passé à autre chose que, c'est le mot qui revient en ce moment, le jour d'après, est-ce que ça pourra plus être comme avant?
Alors ça c'est la grande question, et puis ça dépend de beaucoup des métiers dont on parle, mais certainement chacun des métiers, à commencer par le mien, qui fonctionne très bien en télétravail, va évoluer. Ça, c'est certain. Mais il va y avoir des métiers entiers qui vont évoluer. Vous citiez à l'instant la restauration. Vous savez qu'il y a des restaurateurs qui font ce qu'on appelle des dark kitchens. Dark kitchen, ça veut dire, en fait, c'est un restaurant, sauf qu'il n'y a pas de salle. C'est un restaurant qui produit des plats, des bons plats, et qui sont ensuite portés chez le client par, vous voyez, des Uber Eats ou des Deliveroo. Et en fait, c'est des cuisines qui sont conçues très, d'une manière très particulière. Au niveau sanitaire, il y a des sas, les gens qui visitent, c'est-à-dire les livreurs qui viennent chercher les plats, eh bien, ils sont complètement isolés. Il y a beaucoup plus de distance pour les gens qui travaillent. Il y en a plusieurs dans Paris, il y en a dans pas mal de villes de province. Et ça, ça va être un modèle vachement intéressant. Sachant que pour avoir une vision long terme, je pense que dans 10 ou 20 ans, les cuisines vont disparaître dans les habitats. Il y a une étude extraordinaire qui a été faite. Pour amortir une cuisine, en France, il faut 40 ans. Quand vous voyez le prix du mètre carré, c'est absolument fou. Et à Hong Kong, c'est la même chose.
Donc on n'aura plus de cuisine à terme, vous pensez?
Enfin, en tout cas, non.
Oui, enfin, sauf que vous calculez le temps qu'on passe dans sa cuisine à faire la cuisine. Moi, je vous parle le temps qu'on passe dans sa cuisine à discuter, à boire un verre, à prendre son café le matin. Ouais. C'est un lieu de vie comme un autre.
Mais en Chine, ça commence. Vous savez, en Chine, le mètre carré est très cher. Ouais. Vous avez beaucoup d'exode rural. Vous avez des gens qui ont des très petits salaires, qui sont très confinés, entre guillemets, dans des villes comme Shanghai. Ils n'ont ni le temps, ni la place pour faire la cuisine. Et ils vont se restaurer dans beaucoup de restaurations très accessibles, notamment avec une enseigne qui s'appelle Rema. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est hippopotame, ça fait partie d'Alibaba, et vous pouvez commander directement au supermarché, vous faire livrer. Et quand on voit la place que prend une cuisine, le temps qu'on y passe, au début du siècle, du 20e siècle, on fabriquait beaucoup soi-même ses vêtements. Aujourd'hui, ça paraît dingue. On tricotait, ça a disparu. Maintenant, ça va très vite. Et je pense que la cuisine, ça va être la même chose. Donc, de plus en plus de cuisines vont livrer et il y aura de plus en plus de dark kitchen. Ça va faire partie des évolutions de la restauration majeure, je dirais, post-crise.
Non, vous avez sans doute raison, mais je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle.
Ah mais ça, je veux dire, moi j'ai été élevé dans le 20e siècle, et l'inertie, pour répondre aussi à votre question, il y a une inertie. J'adore ce proverbe, vous savez, breton qui dit « passez la tempête, adieu les saints ». Ça veut dire que quand on aura trouvé l'antivirus, quand tout ce truc aura disparu, on va revenir à nos bonnes vieilles habitudes, ne serait-ce que parce que toute une partie de notre génération, des gens qui vivent aujourd'hui sur la planète, ne sont pas des gens qui sont nés dans l'Internet. Ce ne sont pas des digital natives comme moi, par exemple. Donc, il y aura cette inertie, c'est certain. Mais il y a des gens intelligents partout. Et en période de crise, on l'a vu pendant malheureusement les guerres, eh bien, on trouve plein de solutions très vite. Et moi, je le vois dans mes métiers, c'est incroyable.
On en parle. Merci beaucoup, Hubert de Malherbe. C'était passionnant d'être avec vous, président de Malherbe Design, spécialiste du commerce. Et on l'a bien compris qu'il y a des spécialistes du commerce et au-delà. Et c'est très intéressant l'échange qu'on vient d'avoir, parce que c'est vrai que très souvent, on le dit dans RMC Mobilisation Générale, depuis c'est notre quatrième semaine, c'est qu'il y aura des leçons à tirer de cette crise dans tous les domaines. Évidemment, dans le domaine médical, sanitaire, de l'hygiène, dans nos comportements quotidiens.
Il y aura
des leçons à tirer politiques, évidemment, mais tu vois,
bonjour en serrant la main, en se faisant la bise.
Mais tu sais qu'il y a déjà un sondage qui a été publié il y a quelques jours.
Ça sera peut-être long à revenir.
Sur l'attitude des Français, et forcément, on est en pleine crise, donc voilà. Mais t'as quand même les trois quarts, si je me trompe pas, des salariés français qui disent que la bise, c'est terminé, par exemple. Autre.
Ça, c'est dommage. Je pense qu'il y a un domaine où, effectivement, il y aura un après qui sera différent de l'avant, c'est la production, la mondialisation et la production de faire de la Chine l'usine du monde. Ça, je pense que vraisemblablement, les pays européens, l'Allemagne en particulier, la France aussi, vont rapatrier une grande partie de la production et pas que des masques chirurgicaux, de plein d'autres choses.
Quelque part, évidemment, on s'en réjouit pas de cette crise. Personne ne peut s'en réjouir. Il faudrait être complètement déconnecté de la réalité. Mais c'est passionnant aussi. C'est passionnant aussi. Voilà. C'est un monde qui se transforme, bien malgré lui, mais qui se transforme et qui va continuer à se transformer dans les années et voire les décennies qui viennent. Il y a des messages et continuez à nous envoyer des messages sur Direct Studio, Antoine.
Un auditeur qui nous écrit du Lot-et-Garonne, qui nous explique qu'il est technicien électroménager à domicile dans une grande enseigne de vente d'électroménager, et il dit nos équipes de dépannage et de livraison fonctionnent encore mais en effectif réduit pour quand même dépanner ou vous livrer en cas de panne de frigo, lave-linge, on en parlait, avec toutes les protections, masques, gants, gel désinfectant, mais aussi, il leur ajoute, avec une petite peur du Covid-19.
Et on va continuer d'en parler des commerces, de ce commerce, de notre commerce qui tente de s'adapter à la situation et de rebondir. Jérôme sera avec nous dans un instant, il nous appelle au 3216 et vous aussi, n'hésitez pas à nous appeler. À tout de suite.
RMC Mobilisation Générale.
Plus fort ensemble. RMC Mobilisation Générale.
Plus fort ensemble.
RMC Mobilisation Générale, tous les jours, 14h, 16h, pour être à vos côtés. On est en train de continuer à discuter. Il faudrait parfois que les micros restent ouverts pendant la pause.
On perturberait un peu les
pages publicitaires.
Oui, on parlait de le docteur Rekia qui va
nous rejoindre tout à l'heure, qui sera à l'antenne avec nous à 15h, mais il est déjà bien présent. Et on parlait de frites, parce qu'on parlait des cuisines, ce qu'on vient d'entendre à l'instant,
idée qu'on construira des appartements sans cuisine à l'avenir et qu'on a déjà commencé à Hong Kong.
Et forcément, moi, un gars du Nord, le docteur Rekia nous parlait de frites sans huile. Non, mais n'importe quoi. Enfin bref. Mais on en parlera un peu si vous voulez tout à l'heure. Mais pour l'instant.
Ne lui ouvrez pas son micro.
Surtout pas. Christian Rekia donc, sera avec nous à partir de 15h. Mais tout de suite, on continue de parler de ces commerces qui tentent de s'adapter à la situation, qui tentent de redémarrer comme ils le peuvent dans des conditions difficiles. Et Jérôme est là aussi pour en témoigner. Bon, Jérôme, il nous appelle depuis Clermont-Ferrand dans le Puy-de-Dôme, c'est ça Jérôme ?
Allô, bonjour, oui.
Bonjour Jérôme, bienvenue sur RMC Jérôme, merci d'être avec nous. Oui, je disais c'est difficile parce que toi, t'es dans l'un des domaines d'activité particulièrement affectés.
On a été touché directement.
Tu es restaurateur, c'est ça ?
Oui, je suis restaurateur, j'ai trois établissements, dont deux qui sont totalement fermés.
et un qui aujourd'hui survit entre guillemets à cette crise. Mais dès le départ,
grâce à la livraison, c'est de la livraison ou emporté.
Enfin, depuis dès qu'on a su le confinement à 18h le 15 mars, là, il a fallu moi en quelques heures que je prenne une solution. Bon, déjà, je faisais pas emporter déjà en centre-ville, donc du coup, j'ai renforcé évidemment cette offre. Et au début, ça balbutiait parce que les gens savaient pas vraiment comment on allait être mangé. Hein. C'était un peu de la découverte pour tous les Français, ce confinement. Et du coup, bon, la première semaine, on a un peu tâtonné. Et là, c'est vrai que maintenant que les gens sont rentrés quand même dans un protocole, il faut le respecter. Oui, effectivement, on a besoin de nos services. Effectivement, ça a pas été payant la première semaine, ça l'est pas la deuxième non plus. Mais je veux dire, au moins, on a une utilité. On sent que la nourriture est essentielle. Et puis, ça change un peu de ce qu'on peut faire à la maison quotidiennement. Voilà. Donc, c'est sûr.
L'établissement que tu as, qui reste ouvert sur les trois que dont tu es propriétaire, c'est ça. Hein, celui qui reste ouvert, donc qui fait uniquement de la livraison ou à emporter. C'est quel type de restauration ?
C'est de la restauration française, donc je cuisine frais tous les midis, tous les matins. Donc du coup, je travaille avec mon épouse et puis une de mes filles. Je me sers de mon laboratoire que j'ai dans mon autre restaurant à la campagne. Donc on usine entre guillemets là-bas et puis après on fournit le restaurant du centre-ville pour la demande. Ce qui me permet de pouvoir travailler.
Je te posais la question parce que restauration française, c'est vrai que on n'a pas l'habitude à emporter ou en livraison.
Ouais, c'est vrai. Mais bon, nous, déjà, c'était déjà une offre qu'on faisait déjà depuis quelques années. Après, ça se savait peut-être un peu moins par rapport à la pléthore de restaurants qui sont là tous les midis. Bien évidemment, les gens peuvent aller dans un restaurant, donc c'est bien. Mais le jour où tu n'as plus rien, en fait, pour manger, et que tu te retrouves qu'avec, en fait, la restauration très rapide, les gens, ça les intéresse pas forcément. Donc oui, effectivement, nous, on a proposé une gamme de restauration.
Est-ce que tu peux donner des exemples?
Ouais, par exemple, à midi, on a fait un sauté de canard au miel avec des pommes de terre rôties. En entrant, on a fait une quiche au maroilles avec des endives. Et puis, en dessert, on a fait une crème caramel. Demain, je fais une rétenceur. J'ai mis devant moi. Demain midi, je fais du lapin. Le lapin valédoche. Tu vois, j'ai commandé du lapin frais chez mon fournisseur. Donc, pareil, là aussi, ça a été toute une mise en place à faire parce que c'est toujours pareil. On est toujours en train de dire qu'on peut tout avoir, mais c'est faux. Moi, par exemple, pas pour faire de la pub pour eux, mais bien régulièrement, je me sers, tu vois, chez mes maraîchers ou chez Métro. Et ne serait-ce que Métro, par exemple, pour avoir du poisson frais, c'est impossible. Et ils sont à Clermont-Ferrand, on n'est pas livré, tu vois. Donc, on est obligé d'avoir soit du surgelé, soit de la viande. Par contre, la viande, ça va, on peut avoir de la sort.
Jérôme, reste bien près de ton téléphone parce qu'on.
Excuse-moi.
Vas-y.
Ouais. Donc, je disais, non, c'est pas toujours évident pour certains produits de les avoir, quoi. Actuellement, effectivement, il y a une petite difficulté sur ça, quoi. Donc, je sais que c'est pas évident. Donc, après, ça fait aussi partie un peu du challenge, tu vois, dans le sens où, c'est à nous de sortir un peu les doigts du derrière et puis de faire les choses bien. Puis
mais c'est super important ce que tu dis là, parce que tu vois, tu parles de challenge, bon, puis d'une expression un peu familière, mais qui nous parle à tous. Tu restes hyper dynamique, tu restes battant, on l'entend.
J'ai pas le choix.
Mais quand même, parce que ça a été super violent, effectivement, tu le rappelais tout à l'heure. Rappelons-nous le discours du président de la République avec tous les événements qui s'enchaînent. Je me trompe pas, c'était le samedi soir, c'est ça, hein?
Le 15,
voilà. Samedi soir, il annonce la fermeture des restaurants.
À 17h30, 18h, tu vois.
Donc, à minuit, le soir même. Vous aviez 6 heures pour fermer.
J'avais tous mes employés, j'avais tout le monde, tu vois. Je veux dire, tu dis aux gens, demain c'est terminé, fin du game, tu vois. Donc c'est bizarre, quoi. Tu vois, tu rentres dans un univers que tu connais même pas. Tu mets les pieds dans un truc totalement hallucinant, quoi. Donc
Mais tu te bats.
Moi j'y suis parce que en fait c'est ce que je disais. Tu sais, moi je sais pas comment je vais être mangé. Donc en tant qu'artisan, enfin indépendant, je préfère créer ma richesse que d'attendre qu'on me la donne. C'est comme ça. Aujourd'hui, je me dois aussi de le faire parce que j'aime mon travail, c'est ma vocation, mais aussi parce que je sais pas si demain tout ce qui a été annoncé par l'État est vrai. Donc l'argent, tu sais, c'est tout ça, c'est un peu du virtuel à mes yeux. Donc pour l'instant, tant que j'ai pas touché un euro de quoi que ce soit, j'ai eu la chance de pouvoir moi travailler. D'autres ne peuvent pas le faire et j'entends parfaitement. Moi, j'ai encore cette possibilité là, même si c'est pas grand chose, tu vois, même si je fais pas grand chose tous les jours, au moins je suis au boulot.
Et puis surtout, ça m'évite de glander chez moi, tu vois, parce que je ne le supporterai pas. J'ai tellement une activité débordante que là, tout d'un coup, tu sais, ça fait un arrêt, ça m'a fait bizarre. Donc, je t'explique même pas tous mes employés, c'est pareil, quoi, tu vois.
Ne serait-ce que par les menus dont tu nous as parlé tout à l'heure, ne serait-ce que par ce que tu nous dis, voilà, de ta mentalité, ce que tu nous expliques, moi j'ai envie d'aller me chercher ou de me faire livrer chez Jérôme. C'est quoi le nom de ton restaurant, Jérôme?
Ça s'appelle Restaurant Le 24. Notre menu, il est à 10 euros, entrée, plat, dessert. Je vais te dire, on est imbattable. Et même les gens se demandent comment on fait. Mais après, c'est à moi de bien faire les achats.
Le docteur Christian Recchia qui est en face de moi, les bras ballants, c'est une expression qui a tout son sens. Un instant, ouvrez votre micro, ouvrez le micro de Christian Recchia.
Hommage à vous.
Voilà, très bien.
Merci.
Humblement. Non, mais ce vraiment, n'est que de l'humilité, Jérôme. Et je pense à mes parents, tout simplement.
Merci à vous.
On est le 24, c'est ça, à Clermont-Ferrand.
Le restaurant 24 à Clermont-Ferrand, ouais, c'est ça. Ça fait 14 ans bientôt qu'on sera là.
Les Auvergnats, ouais. Très fort.
Quand même. Ouais, les Auvergnats, puis moi je suis du Cantal, je suis du 15, alors en plus de ça, c'est là-bas, on n'a pas le choix, il faut travailler ou travailler. Voilà, c'est tout. Donc c'est comme ça, je suis.
Ne lâche rien, Jérôme,
Très gentil. C'est très très gentil, bon courage. À vous et merci de m'avoir fait passer sur votre antenne. Et,
tu nous rappelles quand tu veux, Jérôme. Merci.
Ouais, bien sûr, j'espère quand même que ça arrêtera tout ça parce que ça me fait chier.
Oui, voilà. On est d'accord. On est tous d'accord là-dessus. Merci, Jérôme.
En plus de ça, je vais vous dire, en plus de ça, je sais que j'ai beaucoup d'amis à moi qui m'écoutent et je leur dis qu'en plus de ça, ils ont été très déçus parce que le salon de l'érotisme ne s'est pas fait à Clermont-Ferrand. Rien que ça, t'imagines quoi. Tu vois. Donc ils pensent que.
Qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste que quand c'est comme ça, tu sais ce qu'il nous reste ? Il nous reste la bouffe.
Et le sport.
Le 24, cas, allez, je le répète une dernière fois, le restaurant le 24. Merci Jérôme. Voilà, il y avait Eric qui était avec nous également, Épernay dans la Marne. Malheureusement, on est pris par le temps, il travaille dans l'agroalimentaire. Mais je donne la parole rapidement à Eric. Je suis désolé, on est pris par le temps. Salut Eric, bienvenue sur
RMC. Oui, c'est pas grave, je comprends bien. Oui, bonjour à tous.
Bonjour.
Je suis content de vous avoir.
On est content aussi, Eric. Tu as repris le travail aujourd'hui?
Non, j'ai repris déjà la semaine dernière, donc bien sûr dans des conditions, des gants, le masque, le gel, enfin tout ça.
Tu travailles dans quel domaine?
Eh ben, je travaille dans l'injection, on fabrique du matériel agricole pour agricole, viticole, arboricole. Voilà.
T'es dans quel état d'esprit, Eric?
Moi, écoutez, ça se passe très bien. Hein. Franchement, même les collègues, ça se passe super bien. Au début, on appréhendait un peu, et puis en fin de compte, ça s'est fait gentiment et ça se passe très bien. Voilà.
Content de retourner au travail, quoi.
Voilà, content de retourner au travail, ça fait du bien.
Mais tu l'as dit, tu l'as précisé, parce que je suis toujours sous l'épée de Damoclès, celui qui est au-dessus de moi, l'épée de Damoclès, ça s'appelle Christian Recchia, c'est notre médecin. Et évidemment, tu l'as précisé, dans des conditions de sécurité satisfaisantes.
Oui. Voilà, vous avez... Oui, franchement, tout a été fait comme il faut, dans les règles, c'est très bien.
Bon, très bien.
On n'a pas peur.
Très bien, Eric, merci. Oui, on n'a pas peur, c'est bien, Eric.
C'est moi qui vous remercie.
On prend des précautions, mais on n'a pas peur. Merci, Eric, d'avoir été avec nous au 32-16. Bon, voilà, ça fait du bien, il y a du positif comme ça, Jérôme. On comprend bien que c'est difficile, t'imagines, deux restaurants sur trois fermés, mais il se bat, il se défonce. Eric, qui est content de reprendre le boulot, mais évidemment en ayant conscience qu'il faut faire attention.
Et alors, dans un domaine pas essentiel, mais effectivement, si les mesures de sécurité sont respectées et si le télétravail n'est pas possible, en l'occurrence dans la machine-outil, quand on fabrique des pièces d'injection, le télétravail n'est pas possible, eh bien c'est tout à fait légal de reprendre le travail. Mais même depuis le début, depuis le confinement, il a été prévu que si on ne peut pas faire du télétravail, alors on peut travailler.
Mais en faisant toujours attention. J'ai deux choses à vous dire. Un, face à l'épidémie de Covid-19, RMC s'associe à la Fondation des Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, pour soutenir les personnels soignants. Nous lançons un appel aux dons. Pour donner, c'est simple, pour aider les personnels soignants. Rendez-vous sur rmc.fr ou alors vous envoyez don, D-O-N par SMS au 92-111. Don, D-O-N par SMS au 92-111. Là, vous donnez 5 euros. Vous pouvez également vous rendre sur les réseaux sociaux de RMC et sur le hashtag Solidarité Hôpitaux. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, vous pouvez deviner, il est là, il est en face de moi. Vous l'avez déjà entendu, il est chaud bouillant. Dans un instant, le docteur Christian Recchia répondra à toutes vos questions pratiques, celles du quotidien sur l'épidémie. Appelez-nous au 3216, écrivez-nous sur Direct Studio. À tout de suite.
RMC Mobilisation Générale.
Plus fort ensemble.